je ne crois pas qu'on soit alcoolique en
chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
At the happy hour. At the happy hour.
Midi 30, pile poil sur 48 FM, bienvenue dans notre émission Happy Hour. Pendant toute cette heure, nous allons parler de ceux, et peut-être même de celles, puisque je crois qu'elles sont majoritaires en France, de ceux qui se font appeler les aidants, autrement dit ces personnes qui accompagnent un proche malade, handicapé ou encore vieillissant, et qui a besoin d'aide dans son quotidien parce que pas ou plus autonome. Un statut d'aidant qui n'est pas toujours évident de conjuguer avec sa vie professionnelle notamment, et pour ça un droit au répit leur est désormais reconnu par les pouvoirs publics. Mais qu'est-ce à dire que ce droit au répit? Eh bien justement, nous allons en parler avec nos deux invités du jour, Joséphine Ponnel et Sylvie Verduzier. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Avec nous également sur ce plateau, nos deux chroniqueurs invétérés, Eric et Cyril. Salut à tous les deux.
Salut.
Bonjour les gens.
Alors, est-ce que peut-être vous pouvez nous dire de quoi vous allez nous parler ou pas? C'est comme vous préférez.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que je suis en train de lire en ce moment. Voilà.
Très bien. Et toi, Eric?
Je suis parti à l'aventure.
Tu es parti à l'aventure, tu n'en diras pas plus. Alors, Joséphine Ponnel, vous êtes infirmière et vous, Sylvie Verduzier, coordinatrice de quoi? D'une nouvelle plateforme, on l'appelle plateforme, plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants, donc autrement dit un espace dédié aux aidants. Alors, elle a ouvert en novembre à Mende, mais au public précisément en janvier, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Cet espace, il est adossé à l'accueil de jour de l'EHPAD de l'Adoration à Mende. C'est une structure qui est financée par l'Agence régionale de santé Occitanie, mais qui répond à un projet d'envergure nationale. Alors on pourrait peut-être commencer par là. Est-ce que vous pourriez, l'une de vous deux, préciser dans quoi ça s'inscrit, dans quel cadre national?
Sylvie. Oui. Alors, en fait, c'est le premier plan Alzheimer en 2008, ce plan national qui pour soutenir les proches de malades d'Alzheimer, qui avait comme orientation de développer ces plateformes d'accompagnement et de répit des aidants. Ensuite, il y a eu le plan maladie neurodégénérative qui a pris le relais. Et aujourd'hui, on est dans une stratégie nationale qui s'appelle « Agir pour les aidants ». Et la volonté, en fait, c'était que le territoire national soit couvert par ce dispositif qui est là pour soutenir les aidants, ce qu'on appelait avant les aidants naturels, les aidants familiaux, c'est-à-dire des proches qui sont là au quotidien. Et en France, il y a actuellement un peu plus de 260 plateformes d'accompagnement et de répit. Il y en a 27 en Occitanie. Et les deux dernières qui se sont mises en place, eh bien, ce sont celles de l'Ariège et de la Lozère. Et effectivement, la nôtre a ouvert, qui a vocation à couvrir tout le département, a ouvert en novembre dernier.
Donc c'était donc la dernière qui était attendue en Occitanie, en Lozère. Donc là, vous nous avez dit, ça s'inscrit donc dans ce plan Alzheimer qui couvrait les années 2008-2012. Donc ça, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En 2015, il y a une loi qui a reconnu officiellement le statut des aidants. Donc c'est la loi d'adaptation de la société au vieillissement, AVASV. Est-ce qu'on peut peut-être préciser du coup qu'est-ce qu'on définit par aidant? Ça implique qui? C'est toutes les personnes, c'est forcément des personnes qui accompagnent des personnes que malades.
Alors un aidant, ça peut être très général. La définition exacte, elle est très difficile à cerner parce qu'on parlait au début d'aidant naturel ou d'aidant familial, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal d'aider un proche. Donc un aidant, nous en tout cas dans le cadre de l'espace des aidants, un aidant c'est quelqu'un qui accompagne une personne proche qui peut être de sa famille ou pas, parce qu'on voit que des fois c'est un voisin ou quelqu'un voilà, de l'entourage mais sans forcément de lien familial et voilà, qui accompagne une personne malade. Alors ça, nous dans le cadre de l'espace des aidants, c'est plutôt orienté vers les personnes âgées qui peuvent avoir des maladies neuroévolutives, des troubles cognitifs ou des personnes âgées en perte d'autonomie. Mais si on parle de l'aidant au sens général, ça, voilà, on peut être aidant de quelqu'un qui est une personne handicapée, qui est une personne âgée, qui a une maladie.
Voilà, qui est en manque d'autonomie, en fait. Voilà, c'est voilà, peut-être ça qui peut circonscrire un peu de manière précise. Et on peut peut-être aussi ajouter que c'est une aide qui est non rémunérée, parce que ça se distingue, on comprend pas les bénévoles ou qui font partie d'autres associations qui peuvent déjà aussi prendre en charge ce type d'accompagnement. Là, c'est dissocié, les aidants sont vraiment dissociés de ça. Et en moyenne, en France, c'est des personnes qui sont âgées d'environ 50 ans, et c'est majoritairement des femmes, hein, à hauteur de 57%, selon les derniers chiffres que j'ai trouvés. En France, ils sont entre 8 et 11 millions d'aidants. Ça implique donc un Français sur 5. Est-ce qu'en Lozère, on sait ce que ça représente ?
C'est très difficile d'avoir des chiffres. Il y a eu plusieurs diagnostics qui ont été faits, pas spécifiquement sur la thématique des aidants, mais c'est compliqué parce que, alors, ce qu'il faut se dire tout d'abord, c'est que les aidants ont vraiment du mal à se reconnaître comme tels, parce qu'effectivement, pendant longtemps, mais c'est naturel, quand on se marie et que son conjoint ou sa conjointe fait face à une maladie ou à des difficultés, le conjoint ne se pose pas la question, enfin la plupart en tout cas, il y en a peut-être qui se disent non, je ne veux pas assumer ça, mais la plupart restent et donc sont là au quotidien à devoir vivre des fois des situations qui sont intenables. Parce qu'on sait que quand il y a des problèmes cognitifs, c'est un quotidien qui est très très usant. Et donc la personne qui aide, donc l'aidant, il ne va pas se reconnaître comme un aidant, il va dire moi, je suis pas malade, je vis avec quelqu'un qui est malade et je vais faire tout pour l'aider et puis faire en sorte que ça se passe bien. Mais le problème, c'est que quand on aide comme ça et qu'on trouve qu'on se pose pas la question de savoir si on est un aidant ou pas, c'est qu'on sait que derrière, pour tenir la distance, il y a besoin de quand même avoir un petit peu cette conscience que ce qu'on fait, tout le monde ne le ferait pas et que c'est surtout, c'est fatigant et que, il peut y avoir derrière de l'isolement et de l'épuisement. On sait que ce sont les deux principaux risques quand on est aidant, en fait, hein, et que pour ne pas arriver dans le mur, parce que malheureusement, souvent c'est l'aidant qui va avoir des problèmes de santé avant, qui risque soit de décéder, soit d'avoir d'autres maladies.
Ou de burn-out, par exemple, puisque souvent c'est associé aussi avec l'activité professionnelle. Donc
tout à fait. Donc du coup, au quotidien. C'est important qu'il y ait cette prise de conscience qu'ils sont aidants et qu'il y a des dispositifs, dont l'espace des aidants qui est fait pour ça, pour apporter de l'aide.
Cet espace des aidants qui du coup reconnaît, mais c'était déjà aussi reconnu par cette fameuse loi dont on a parlé, là, de vieillissement de la société, du droit au répit. Donc peut-être définir ce terme de répit, qu'est-ce qu'il implique ?
Alors le répit, voilà, c'est justement reconnaître que l'aidant passe beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement auprès d'une personne malade et que pour continuer à aller bien, si on peut le dire ainsi, il a besoin de prendre du temps et de faire des choses qui lui apportent et qui lui permettent d'avoir du temps en tant que personne et pas uniquement en tant qu'aidant. Donc le répit, c'est rebasculer sur le fonctionnement de « je vis en tant qu'une personne » qui n'est pas en permanence à 100% aidant, qui a le droit d'avoir des loisirs, qui a le droit de voir sa famille et qui a le droit, par exemple aussi, de prendre du temps pour aller à des rendez-vous médicaux pour lui. Donc le répit, voilà, englobe plusieurs domaines pour l'aidant, mais pour qu'il ait du temps sans être aidant, quelque part.
Et du coup, derrière, c'est l'idée pour favoriser ce répit, ce temps libéré, que l'aidant puisse s'accorder un temps pour lui où il sera quand même rassuré, que la personne qui l'aide soit bien accompagnée. Il y a eu, alors vous citiez tout à l'heure cette loi de l'adaptation de la société au vieillissement en 2015, qui pour la première fois, effectivement, a inscrit dans des plans d'aide APA, c'est de l'aide personnalisée à l'autonomie. Ce sont des financements qui sont gérés par le conseil départemental, et quand une personne bénéficie d'un plan d'aide APA, il y a des heures qui étaient prévues au plan d'aide pour permettre ce temps libéré.
Est-ce que ça réfère au congé aidant ou c'est encore autre chose ?
Non, ça c'est autre chose. Ça, ce sont des heures donc, qui vont être des heures d'aide à domicile, d'intervention d'une auxiliaire de vie sociale au domicile. Donc déjà dans le plan d'aide APA, quand il y a une maladie cognitive, il y a des heures qui peuvent être adhérées. Des heures qui peuvent être attribuées pour ce temps pour l'aidant. Mais du coup, nous, avec la plateforme des aidants, on va au-delà grâce à un financement spécifique de l'ARS. Et peut-être, Joséphine, je vais te laisser expliquer comment ce temps peut se mettre en place et que ça va être des heures en plus pour permettre d'accorder encore plus de temps aux aidants.
Alors, je vous laisse prendre le relais tout de suite, Joséphine.
Oui, alors au niveau de la mise en place, en fait, ces heures-là, elles sont financées complètement, comme disait Sylvie, et c'est des heures où les services d'aide à domicile qui existent sur le département vont intervenir au domicile pour passer du temps avec la personne qui est malade et pour que l'aidant puisse avoir du temps libéré. L'intervenant qui se rend à domicile, dans l'idéal, s'il y a déjà un service d'aide à domicile qui intervient chez le binôme aidant-aidé, sera favorisé pour qu'il y ait ce lien de confiance qui existe déjà et que l'aidant puisse prendre ce temps libéré en se disant que la personne malade va être accompagnée par quelqu'un qui saura gérer et qui saura accompagner la personne malade au mieux. C'est vraiment un temps qui est dédié pour du temps relationnel, pour faire éventuellement une activité, pour passer du temps ensemble et pour que la personne malade puisse être éventuellement stimulée ou faire des ateliers mémoire, faire du jardinage. Mais vraiment un temps où l'aidant est à l'esprit le plus serein possible et sait que l'intervenant à domicile a l'habitude de venir et de passer ce temps-là.
Et du coup, pour avoir droit à cet accompagnement par une aide à domicile, la personne aidante fait appel à vous, c'est ça l'idée en fait. C'est
oui.
que vous, en
pour
fait,
avoir
vous
des
avez.
Heures supplémentaires, oui.
Et vous, ouais. vous chargez de la coordination avec les autres dispositifs existants d'accompagnement.
Nous, on travaille avec les services d'aide à domicile et les aidants peuvent nous contacter pour qu'on organise avec eux la mise en place. Donc, ça représente 36 heures par an qui sont financées et qui peuvent s'organiser après. Ça peut être 3 heures sur un après-midi ou 6 heures s'il y a besoin pour l'aidant de prendre plus de temps de se déplacer. On organise vraiment avec l'aidant ce dont il a besoin en termes de temps libéré.
Voilà.
Et pendant ce temps, il peut aller à un rendez-vous médical ou une activité de loisir un événement familial. Mmh. Voilà. L'idée, c'est de s'organiser un peu avant. Et c'est 36 heures par an par aidant. Donc, du coup, il faut effectivement passer par nous. Ce que nous avons conventionné avec la DMR, Présence Rurale 48, l'ASD et Service 48. Voilà. Ça va pouvoir se mettre en place et ça s'adresse en fait à tous les aidants, enfin aux aidants de la Lozère, hein. Qu'importe où ils habitent. Nous, on est basé sur Mende, mais on a vocation à intervenir sur tout le département.
Sur l'ensemble du département. Ouais. Et peut-être, on ne l'a pas fait préciser, votre équipe, vous êtes donc combien en tout? Là, vous êtes deux aujourd'hui. Il y avait une autre collègue qui devait venir qui n'a pas pu pour cause notamment de grève aujourd'hui.
Voilà, donc pour compléter notre équipe, on a aussi Fanny qui est psychologue. Et on est donc une équipe de trois, une infirmière, une coordinatrice, une psychologue pour vous accueillir donc à l'espace des aidants. Le lundi de 17h à 19h30, parce qu'on sait qu'il y a des aidants qui travaillent et que du coup, ils ne sont pas forcément disponibles sur les horaires classiques. Et puis après, on est disponible souvent aussi entre midi et 2, pour s'adapter aux aidants qui travaillent encore.
Tu voulais réagir, je crois, Eric.
Oui, non, moi, c'était pour savoir, est-ce qu'il faut que les aidants ils soient volontaires ou est-ce que des fois, on peut, par exemple, si on connaît quelqu'un qui est dans cette situation mais qui n'ose pas franchir le pas, dénoncer, entre guillemets?
Alors, il ne s'agit pas forcément de dénoncer parce que nous, le travail se fait en collaboration avec les aidants. Mais après, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'aidants qui auront des difficultés à nous appeler parce que on se reconnaît pas forcément comme aidant ou on se dit que oui, on va y arriver, qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais nous, à partir du moment où l'aidant est d'accord pour qu'on prenne contact avec lui, si c'est quelqu'un de l'entourage ou un professionnel qui en a parlé à l'aidant, qui a donné nos coordonnées, et à partir du moment où l'aidant dit « D'accord, je veux bien que l'espace des aidants me contacte, mais moi, j'ai pas envie de les appeler ou on verra, peut-être que je les appellerai plus tard », nous, il n'y a aucun problème là-dessus. On peut rappeler un aidant via quelqu'un d'autre qui nous donne ses coordonnées à partir du moment où l'aidant est d'accord. C'est aussi le principe, c'est de se dire que les aidants peuvent avoir des difficultés et nous, on est là pour leur tendre la main et dire « c'est difficile de nous appeler, nous, on est là pour vous aider, vous proposer des choses ». On pourra aussi parler des activités, des autres thématiques qu'on propose à l'espace des aidants. Donc oui, on est là pour nous prendre contact avec eux s'il y a besoin.
pour compléter ce que Joséphine vient de dire, effectivement, les contacts qu'on va avoir, ils vont être plutôt via des orientations. Alors, des orientations de professionnels. Et notre première activité quand la plateforme s'est ouverte, ça a été de prendre contact avec tous ceux qui interviennent déjà dans des situations où il y a un aidant et qui en ont connaissance et qui ont connaissance des difficultés. Parce que nous, on ne travaillera pas tout seul. On est 3 mi-temps sur la plateforme. Donc, c'est vraiment de travailler en lien avec déjà tous ces professionnels qui sont sur le terrain et eux qui ont cette connaissance-là des situations où il y a un peu de tension vont nous les signaler. Et comme vient de le dire Joséphine, eh bien, avec leur accord, après, on va vers eux parce que, effectivement, c'est que parfois, quand on n'en peut plus, ne serait-ce que de décrocher le téléphone et qu'on ne sait pas qui va y avoir au bout, même si on a un nom, ça peut être compliqué.
Et là, actuellement, vous venez donc d'ouvrir en janvier. Est-ce que vous pouvez dire peut-être combien de personnes vous avez déjà accueillies à ce jour ?
On a accueilli et contacté une quinzaine d'aidants.
D'accord. Voilà.
Alors, via des professionnels. Et après, pour compléter, ça peut être aussi via des personnes de la famille qui entendent parler de l'espace des aidants, même s'ils ne sont pas professionnels de l'accompagnement, de la santé ou du secteur médico-social. La famille, les enfants, les petits-enfants, enfin, voilà, quelqu'un de proche d'un aidant et qui se rend compte que l'aidant est en difficulté peut nous contacter pour prendre des renseignements ou, voilà, nous donner des coordonnées de la personne.
Donc là, la démarche actuellement, c'est aussi, pour l'instant, en tout cas, de chercher à faire réseau pour que toutes les personnes qui sont...
Se faire connaître. C'est de faire connaître. Merci à vous de nous donner la parole à cette antenne.
Avec plaisir. Eric, tu viens de prendre la parole il y a 2 minutes. Je vais te la redonner sans plus tarder, puisqu'on va faire place à ta chronique. Donc, il paraît que tu as testé quelque chose pour nous, donc.
Oui, en ce début d'année, je suis parti à l'aventure pour vous. Pour montrer qu'avec de la volonté et un courage à toute épreuve, on pouvait réaliser de véritables exploits. J'ai ainsi essayé pour vous le dry January. Le mois sans alcool. Bon, quand on connaît le titre de notre émission, cela pourrait presque passer pour un blasphème. Mais je ne suis pas à ça près. Oui, je sais, il faut être un peu fou pour tenter ce genre d'aventure. Et je ne peux que vous conseiller d'être bien préparé si vous voulez tenter ça l'année prochaine. Bon, allez, je vous raconte mon exploit. J'ai bien cru que je n'allais tenir que quelques heures parce que, bon, pendant le mois de janvier, s'il n'y a bien qu'un seul truc à faire, c'est picoler. Il fait froid, il fait nuit tout le temps. C'est en plein la saison de la raclette. Bref, que des bonnes raisons de prendre un petit verre à votre santé. Parce que c'est aussi la saison de répéter, et surtout, et la santé. Hein. Ainsi, il ne faut pas croire, ce n'est pas si facile que ça. Il m'est arrivé d'avoir quelques hallucinations. Genre, j'ai entendu dire que les enfants américains étaient en proie à un terrible fléau. Comme vous le savez, alors, les armes sont autorisées aux States. Mais non, ce n'est pas ça, les armes c'est bien. Vous me direz la drogue alors, avec tous ces morts par opiacés ou opioïdes. Mais non, ça aussi, ça passe. Ils doivent se méfier d'un plus grand danger encore. J'ai nommé le M&M's violet. Il paraîtrait que ce petit bonbon représente la plus grande menace en faisant l'apologie de la communauté LGBTQ+. Et qui risquerait ainsi de perturber les enfants. Alors, heureusement, M&M's a arrêté sa propagande. Mais bon, le mal était fait. Heureusement que certains ont eu la grande idée de trier les bonbons selon leur couleur. Bon, la marque a alors pu continuer à lutter contre les discriminations. Pour ses profits, et je ne sais plus trop bien. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai entendu cette info pendant que j'étais en plein manque d'alcool, donc je suppose que ce n'était qu'une hallucination de mon cerveau. Sinon, en règle générale, je l'ai plutôt bien vécu, même si j'avoue que j'ai essayé de la bière sans alcool. Et puis on dira ce qu'on voudra, mais c'est bien un peu dégueulasse. C'est un peu comme un steak sans viande ou comme une manif sans sandwich merguez. Ah oui, j'ai cru entendre dire que ça manifestait pour les retraites. Alors que si l'on en croit le gouvernement, c'est pour notre bien qu'ils font la réforme. Mais vous savez, moi, même avec un cerveau plus clair, je ne vois pas en quoi ça va nous aider de travailler plus longtemps, pendant que certains font des super profits. J'ai même cru entendre un ministre avouer que cette réforme, elle n'était pas forcément avantageuse pour les femmes, qui sont déjà bien avantagées, comme on le sait. Bon alors, ils ont envoyé Brigitte nous parler de l'uniforme à l'école. Je sais, il n'y a pas de rapport, mais dans mon état, on n'a pas besoin de logique pour parler de ce qui fâche. Voilà, je sens que 2023 va encore être un bon cru pour la planète et ses habitants. Il n'y a pas de raison. Il est ainsi grand temps que je m'y remette. Mais ça va, j'arrive sur la fin, dernières heures, avant que je puisse enfin trinquer. À votre santé.
Santé, Eric, merci beaucoup à toi. Avant de continuer, je vous propose une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Sucker.
right. Hoping for a good night, don't know what I feel. Feel like I should write. Pot on shuffle, got y'all in trouble. Live with my bars, come for you, feel like God don't yeah. know. It's 2:50 on the get right. Hoping for a good night, don't know what I feel, but I feel like I should write. Pot on shuffle, got y'all in trouble. Live with my bars, come for you, feel like God don't love you. I'm confused, somebody tell me when do we lose sleep? That's about it, I'm wide awake and wired. I'm moving full speed, praying that I don't crash. Tipsy on the tempo, twisted. Matter of fact, fill off that Jameson liquor, make the tamest a nigga. Feel crazily different and start aimlessly tripping. My cravings are different. West craving intentions. Kill a beat and film it just to say that we did it. Don't pay me attention. I'm zoned out, mumbling with the phone out. Pacing back and forth, exercising till the ghost out. Running on a closed route, competing with myself. One word, no spaces, both heard and felt done.
Beats, rhymes, lifetimes. All I'm here to do is show them how I go for mine.
All I'm here to do is show them how I go for mine. Hands in the air by design. It's all about
beats, rhymes, lifetimes. All I'm here to do is show them how I go for mine.
Yo, all I'm here to do is show them how I go for mine.
Yo, I'm in it here to skill it. Even if I sound vintage, dog a rapper out of tough love. You fuck with it, me, it's just love. So bear with me as I raise cups. That y'all lost in these cornboards. How amazing, not an air to the hairs. Our pace wins, pull a Jimmy hat out of bunny. Hip-hop magic, hip-hop's flagship, Brooklyn Addy-matic. Rap went from battling to cat fights. John Shaft paragraphs, guts on the boards. In the chop shop, chicken and some hen. Bring a friend, I don't cock block. I'm from the bubble with a couple of goats. Big Kane and Jay, he got to rock some votes. Look, love is the motivation, a husband the innovation. I'm wiping the writing with ink penetration, yeah. It's all about beats, rhymes, lifetimes. All I'm here to do is show them how I go for mine.
All I'm here to do is show them how I go for mine. Hands in the air by design. It's all about
beats, rhymes, lifetimes. All I'm here to do is show them how I go for mine.
Hey yo, all I'm here to do is show them how I go for mine.
Vous écoutez 48 FM pour une heure d'émission Happy Hour consacrée aujourd'hui aux aidants et plus particulièrement à leur droit au répit avec nos deux invités Joséphine Ponel et Sylvie Verdusier qui font partie de l'équipe du tout nouvel espace consacré aux aidants qui vient d'ouvrir à Mende en ce début d'année. Donc on va peut-être maintenant parler concrètement des types d'accompagnement que vous proposez à ces aidants. Donc quand on parle de répit, vous nous l'avez un peu expliqué tout à l'heure, c'est pour permettre à ces aidants d'avoir des moments pour eux, de pouvoir se garder un peu du temps libre. Ça passe par quoi alors, via votre accompagnement ?
C'est aussi leur proposer du soutien et de l'information. Alors en fait, on va avoir deux types d'accompagnement, des actions plutôt individuelles sur un accompagnement individualisé à travers un rendez-vous avec la personne pour vraiment faire le point de la situation et définir avec elle quels vont être ses besoins prioritaires. Est-ce que c'est d'avoir du répit, c'est-à-dire de trouver des services qui vont aider pour qu'elle ait du temps libre, soit à travers des heures de répit, soit de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, voilà. Et donc ça, on définit ça ensemble et on accompagne parce qu'on sait très bien que même si on donne l'information entre donner de l'information puis après que les choses puissent se mettre en place, ça peut être long parce qu'il y a besoin aussi de s'autoriser à se dire oui, je vais m'accorder du temps pour moi, je vais faire appel à tel professionnel. Voilà. Et cet accompagnement individualisé peut aller aussi jusqu'à un suivi psychologique, thérapeutique, puisqu'on a la chance d'avoir notre collègue donc psychologue qui travaille sur la plateforme, Fanny Bréard, et qui elle, sur les situations où on sent vraiment qu'il y a des difficultés de positionnement, de souffrance dans la relation, elle va pouvoir proposer aussi ce suivi-là.
Mais ça se passe dans votre espace ou c'est ensuite des rendez-vous qui se prennent et en fait finalement c'est un parcours qui est proposé grâce vous à cette plateforme, mais il y a un parcours qui est mis en place par la suite ou ça se passe au sein même de... Alors, de l'unité.
Ça peut se passer au sein même de l'espace des aidants qui est à Mende. Nous, on peut recevoir les gens qui veulent venir. Alors, sur rendez-vous, parce que comme on est amené à se déplacer, à créer des activités, il vaut mieux nous téléphoner avant. Mais sinon, on est sur l'espace des aidants qui est à Mende. Après, l'idée, c'est d'être disponible pour les aidants de tout le département. Et on sait que la Lozère est un département rural et qu'il y a beaucoup de distance et de temps de déplacement pour venir potentiellement jusqu'à l'espace des aidants à Mende. Donc là, on vient d'ouvrir l'espace des aidants, donc ce sera plutôt des activités proposées à Mende dans un premier temps, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir être disponible sur tout le département. Donc, par téléphone, pour l'instant, on peut avoir contact et faire de l'accompagnement et dénouer pas mal de choses par téléphone. Et puis, à l'avenir, on va se déplacer et on aura des lieux d'accueil qui seront, alors par exemple... sur Saint-Chély-d'Apcher et Marvejols. Après, dans un deuxième temps, ce sera sur Florac et puis plus tard sur Langogne. Voilà, et sachant que là, on cite les grandes villes, mais que sur le lieu d'accueil, on est en train d'organiser et de prévoir tout ça. Donc, ça pourra être sur des plus petits villages, dans des maisons de solidarité, dans des salles que les mairies sont d'accord pour nous prêter, pour pouvoir... Voilà. Limiter le temps de déplacement et que les aidants puissent nous rencontrer sans avoir à faire le déplacement jusqu'à Mende parce qu'on sait que c'est compliqué et que ça prend beaucoup de temps.
Voilà. Et pas forcément chez eux, mais au plus proche de chez eux.
Voilà. Mmh. Parce que c'est aussi souvent un frein. Il y a souvent des personnes dont les proches sont souvent éloignés et que du fait de la situation professionnelle, toujours, c'est pas évident de se rendre disponible chaque jour. Donc cette plateforme, ça répond déjà à cet enjeu géographique qui concerne les aidants. Donc là, le fait de les créer dans des territoires ruraux, de l'étaler un peu sur l'ensemble du territoire français de manière générale, c'est de répondre à cet enjeu-là. Il y a aussi un enjeu d'information, comme vous l'avez dit. Est-ce que aussi vous donnez, j'imagine, vous faites savoir aux personnes qui viennent vous voir les différentes aides qui existent, dont on a parlé tout à l'heure, notamment du congé aidant. Quelles sont les autres aides, en fait, existantes
Alors en fait, c'est vraiment de faire connaître tous les services qui peuvent exister et les aider, tous ces services qu'on appelle du maintien à domicile, puisqu'en fait, la plateforme de répit, l'espace des aidants, elle est là pour aider un maintien à domicile qui est souvent possible dans le cas de ces maladies neurodégénératives que parce qu'il y a un aidant, un proche qui est au domicile. Mais du coup, on va faire connaître tous ces services et ces dispositifs qui peuvent exister en complément et étayer le maintien à domicile, que ce soit du portage de repas à domicile, les services d'aide à domicile, mais aussi, par exemple, des séances de stimulation que peuvent apporter une équipe qui s'appelle l'équipe ESA. Alors, je ne veux pas rentrer dans des choses trop techniques, mais c'est juste pour dire qu'on essaye de faire ce recensement pour être le plus exhaustif possible et pouvoir dire aux personnes qui viennent nous voir, mais voilà ce qui existe en Lozère, voilà combien ça coûte, voilà les aides financières dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce dont vous parliez du congé en fait de proche aidant, donc ça, c'est quelque chose qui est national et c'est pour permettre à des aidants qui sont encore en activité professionnelle de pouvoir prendre un congé qui va être indemnisé. Enfin, c'est une petite indemnisation.
À hauteur de 50 euros, voilà, je crois, par jour.
C'est ça. Donc, je ne vais pas tout décrire parce que c'est vraiment ça, il faut le voir au cas par cas. Mais il y a quand même cette possibilité-là, effectivement, de dire à son employeur, ben non, moi, là, j'ai ma maman, mon papa ou quelqu'un d'autre qui ne va pas bien et je suis attendu au domicile en attendant qu'on trouve autre chose. Et donc, je pose ce congé et je vais avoir la possibilité d'avoir une petite indemnisation. Voilà.
Et vous, là, les personnes qui sont venues vous voir là, jusqu'à ce jour, donc une quinzaine, est-ce qu'elles connaissaient ce droit au répit? Ou c'est encore quelque chose de méconnu?
C'est quelque chose d'encore assez méconnu. On a l'impression quand même que les aidants sont surpris, mais dans le bon sens, agréablement surpris, de se dire qu'il peut exister des solutions de répit à domicile et de temps libéré. C'est plutôt...
Et quand vous dites dans le bon sens, ça veut dire qu'elles ne culpabilisent pas finalement de se dire « bon, bah, j'ai le droit, alors, moi aussi ».
C'est pas forcément dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans le sens « ah bon, ça existe, ah bon, est-ce que éventuellement j'y aurais droit et comment est-ce que ça peut organiser ?» Et c'est plutôt dans le questionnement de « ça existe, on ne savait pas que ça existait, Et voilà, sous quelle forme ça se présente, je pense qu'il y a des fois un petit temps de réflexion, justement par rapport à la culpabilité qui peut encore exister. Mais c'est plutôt, voilà, surpris dans le sens, on ne savait pas que ça existait.
Et le fait que votre espace aidant vient d'ouvrir, du coup, c'est adossé à l'EHPAD, Adoration Amande.
À l'accueil de jour. Parce qu'on distingue bien. Ah. Parce que la maison de retraite, on sait très bien que ça peut représenter un frein.
C'était ma question. Voilà. Du coup, vous venez d'y répondre. Parce que voilà, j'allais dire, ça peut pas être aussi quelque chose qui empêche les aidants de se dire, non, moi, je veux justement éviter ça. Repousser au maximum le
pour beaucoup de personnes, la maison de retraite qui est un lieu de vie, mais pour s'associer que c'est le dernier lieu où on va vivre, et beaucoup n'ont pas envie forcément d'y aller. Donc là, ce qui était important, c'était de se dire, on est rattaché d'un point de vue gestionnaire à l'EHPAD d'Adoration, mais on est surtout adossé à l'accueil de jour. Et l'accueil de jour, en fait, c'est un lieu qui accueille que dans la journée, deux ou trois fois par semaine, des personnes qui présentent des troubles cognitifs et qui, c'est un dispositif qui permet à l'aidant, pendant ce temps, de disposer d'une journée pour lui, pour souffler. Et du coup, d'être en lien avec cet accueil de jour, ça a vraiment du sens, puisque ça permet aussi de pouvoir... pas forcément tout le temps, mais enfin ça permet en tout cas de pouvoir avoir un lien avec les familles, pardon. Et c'est pour ça qu'on est aussi en lien avec les deux autres accueils de jour du département, donc celui de Saint-Chély-d'Apcher et celui de Marvejols, parce que pour nous ça va être intéressant de travailler avec eux et avec les familles sur leurs besoins et ce qu'on va pouvoir leur proposer.
À l'avenir, vous l'avez dit, Joséphine, vous allez être amenée à vous déployer un peu plus petit à petit sur l'ensemble du département. Un des autres freins qui peut être existant aussi quand on est aidant, c'est notamment le coût, les charges, en fait, rien que de se déplacer, de prendre le train ou la voiture pour aller auprès de son proche, ça a un coût, donc il y a des aides qui existent. Est-ce que vous, il y a quelque chose, c'est un coût de vous rejoindre, puisque après ça implique un parcours pour l'aidant. Comment ça fonctionne au niveau financier ?
Alors au niveau financier, le dispositif il est entièrement financé par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Donc toutes les actions et toutes les activités, tout l'accompagnement qu'on propose pour les aidants, il est gratuit pour les aidants, dans le sens où il n'y a aucun coût pour eux. On ne dit pas que c'est gratuit parce que l'Agence régionale de santé paye, mais en tout cas, ce qui est proposé, il n'y a pas de coût financier pour l'aidant. Après, au niveau des transports, pour se déplacer, pour venir jusqu'à nous, il n'y a pas de prise en charge du transport. Mais après, on se renseigne aussi sur toutes les solutions qui existent en termes de mobilité sur le département, parce qu'on a bien conscience qu'il y a certains aidants qui ne peuvent pas forcément se déplacer tout seuls, ou qui n'ont pas de véhicule, ou qui n'ont pas forcément le permis de conduire, etc. Donc il existe quand même sur le département des solutions pour les accueils de jour, les choses comme ça, des solutions de taxi qui peuvent être pris en charge, des choses. Puis des solutions de mobilité, les jours de marché, les choses comme ça. Il y a des transports qui se font dans les endroits un peu plus isolés de la Lozère. Donc on recense ça aussi pour pouvoir le communiquer aux aidants qui sont coincés en termes de mobilité, qui puissent nous rejoindre aussi.
Notre maître mot, en fait, nous, c'est d'essayer d'être le plus pragmatique possible, donc des informations concrètes, donc de les rechercher, d'être souple pour, dans notre accueil, entre midi et deux, le lundi soir, d'être souple et pragmatique pour répondre au mieux aux besoins des aidants, sachant qu'on n'aura pas de baguette magique et qu'on ne résoudra forcément pas forcément toutes les situations, et qu'en fait, quand on est impliqué dans une situation d'aidance comme ça, souvent c'est long pour faire aboutir les choses, surtout quand on a une personne aidée qui va résister. Ne serait-ce que d'accompagner quelqu'un vers de l'accueil de jour ou de l'hébergement temporaire, on se rend compte de toute la difficulté que ça peut être. Et nous, l'idée, c'est de rien faire derrière le dos des gens. C'est vraiment que tout le monde, d'informer et l'aider. Et s'il y a plusieurs aidants et qui ne sont pas d'accord, parce que ça arrive, un père avec ses enfants, par exemple, pour décider de l'avenir ou d'un hébergement temporaire pour l'épouse qui est malade, c'est de le faire ensemble. Et voilà.
Parce que du coup, vous rencontrez à la fois les personnes aidées et aidantes et aidées, ou c'est vraiment destiné que aux aidants ?
Alors, c'est un dispositif pour les aidants, mais les aidants sont très proches de leur aidé, si on peut le dire comme ça. Donc, on est amené à rencontrer aussi les personnes malades qui sont aidées, parce que ça fonctionne en binôme, en fait. Et on sait très bien que des fois, l'aidant se déplace avec la personne qui l'accompagne. Donc, nous, il n'y a aucun frein là-dessus. Et il en est de même pour les activités qu'on veut proposer. Il y aura aussi la possibilité de venir participer à ces activités avec la personne malade accompagnée, parce que l'aidant n'est pas, enfin voilà, si l'aidant vit avec cette personne et partage son temps avec cette personne, c'est normal pour nous qu'ils puissent venir à l'espace des aidants accompagnés.
Voilà, parce qu'on va avoir deux types de profils, voilà, hein, d'aidants. Des aidants qui vraiment ont besoin d'espace pour eux et vont préférer venir tout seuls, et d'autres aidants qui ont tellement l'impression que c'est eux qui comprennent le mieux, et c'est bien souvent le cas, hein, la personne qu'ils aident, qu'ils ont du mal à penser qu'elle va pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Donc il y a une forme de fusion, et du coup elle va se déplacer, venir avec la personne qu'elle aide. Mmh. Et donc nous, dans ces deux cas de figure, on essaye d'avoir, même si la plateforme elle est dédiée aux aidants en priorité, et c'est ce prisme là qu'on a, c'est de aider, soulager ces aidants pour qu'ils puissent continuer leur rôle le plus longtemps possible, et en même temps on a toujours un œil, enfin des possibilités, des propositions position pour les personnes aidées.
Et donc les activités que vous voulez déployer, est-ce que vous auriez peut-être deux, trois exemples à nous donner ?
Oui, alors ça va être mis en place là en cours d'année, en début d'année on l'espère. Il y aura une pause café des aidants. Donc la pause café des aidants, c'est vraiment un lieu et un moment voilà, qu'on veut convivial pour les aidants, où les aidants peuvent se rencontrer entre eux. Qui se fera, c'est en train d'être organisé, donc on n'a pas tous les détails, mais on veut vraiment que ce soit un espace d'accueil, d'échange, de partage, et aussi de partage entre les aidants, parce qu'on sait que voilà, il y a des aidants qui se sentent isolés, qui ont l'impression d'être seuls à vivre ces situations-là, et le fait de se rencontrer et d'en parler à des personnes qui vivent la même chose peut aussi aider. Donc voilà, la pause café des aidants, ça se fera normalement d'abord à Mende, dans un lieu public, dans un café, dans un endroit voilà ouvert, alors avec une salle, voilà, un espace dédié, pas au milieu du public, pour qu'il y ait un espace de parole voilà qui soit agréable et qui soit quand même privé dans l'ordre de ce groupe là,
mais intégré quand même dans
dans la vie publique, et avec par moment des possibilités de thématiques et d'interventions. S'il y a des aidants qui ont besoin d'informations sur des sujets particuliers, on peut faire intervenir voilà, des nutritionnistes, des médecins, des... Voilà.
Ça peut être gens sur la téléassistance, les aides techniques, les mesures de protection. Enfin, ça va être vraiment construit en fonction de ce qui va émerger du groupe, sachant qu'on part sur l'idée d'en faire un par mois, du coup, à partir de fin mars, début avril. Et puis, en fonction, effectivement, ce sera animé par notre collègue psychologue. Mm-hmm. Voilà. Et pendant ce temps, l'une d'entre nous pourra, s'il y a des personnes aidées qui sont là, prendre en charge, accompagner ces personnes. Et en fonction de ce qui va émerger des discussions, et bien effectivement, comme le dit Joséphine, de faire intervenir sur une demi-heure, le temps de ce café qui durera deux heures, quelqu'un qui viendra présenter la thématique et puis répondre, faire un temps de questions-réponses.
En fonction des profils et des besoins, oui, donc. Voilà. Puisqu'on parle d'activité, de divertissement, j'essaie de faire une petite transition, mais c'est un peu foireux. Cyril, c'est à ton tour pour nous parler d'un manga que tu as lu.
Tout à fait. Alors bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, en ce moment il fait froid. On a envie de rester chez soi et pourquoi pas du coup en profiter pour lire un bon livre. Et ça tombe bien parce que ce week-end, il y avait le festival de BD à Angoulême. Et quelle coïncidence, parce que là-bas, il se trouvait un mangaka dont j'apprécie énormément le travail. Alors son nom, c'est Junji Ito. Junji Ito, c'est un des maîtres de l'horreur, si ce n'est le maître quand on touche plutôt, au sujet du manga depuis la fin des années 80. Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance d'aller à ce festival, donc encore moins d'avoir la chance de l'interviewer. Cela dit, j'ai lu quelques interviews par-ci par-là, et comme ça, histoire que tout le monde puisse voir le genre du personnage, j'aimerais vous lire une chose qu'il a dit lors d'une de ses fameuses interviews. L'idée d'exprimer le grotesque me fascine, j'aime partir d'une énigme et du fait qu'on a peur sans savoir pourquoi. C'est le lien entre les choses qu'on ne comprend pas qui va donner des frissons, et c'est l'aspect le plus fascinant de l'horreur pour moi. Donc voilà, je pense que comme ça, tout le monde comprend un petit peu mieux le style du personnage. C'est d'ailleurs un style d'horreur qui se rapproche pas mal de celui de Lovecraft, voilà, s'il y a des connaisseurs du genre qui nous écoutent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, grâce à un ami, j'ai enfin pu mettre la main sur un de ces livres que je voulais lire depuis très longtemps, et ce livre, il s'intitule sobrement Spirale. Alors, le pitch de base paraît très simple sur le papier. On y suit l'histoire d'une adolescente vivant dans la petite ville de Kulosu. C'est une ville qui se fait envahir par une spirale. Alors, une spirale qui va contaminer la ville comme une espèce de grand mal ancien qui va libérer son flot de malédictions et d'autres étrangetés. Et là où j'aime bien le concept, c'est que bah, si grâce à la culture populaire, on sait comment se battre, du moins en théorie, contre des zombies, des loups-garous, des vampires, on fait comment pour se battre contre une spirale? Voilà, vous avez 4 heures.
Bonne question.
Plus sérieusement, c'est peut-être un des livres les plus connus de l'auteur, et à raison. Y a son style de dessin, il y a un aspect qui est vraiment très précis et qui est mélangé à un aspect un petit peu plus crassou. mais particulièrement, ici, ça marche très très bien parce que ça donne un côté très, très irréel à cette horreur. Je pense entre autres à cette scène, sans trop spoiler parce que c'est au début du livre, où il y a un homme qui se retrouve en spirale sur lui-même. Voilà, ça donne des petites sensations bizarres à la colonne vertébrale, légère scoliose, tout ça. Mais malgré tout, c'est un plaisir de suivre cette espèce de malaise corrompre jusqu'à l'âme des habitants de cette ville. Et même une fois le livre fini, vous vous demanderez peut-être qu'est-ce que je viens de lire. En tout cas, si vous êtes du genre courageux ou que vous cherchez un petit frisson sous la couette, n'hésitez pas, lisez-le et surtout essayez de ne pas avoir le tournis. Voilà.
Eh ben, est-ce que tu peux peut-être rappeler encore une fois les références?
Les références
du livre, de
oui,
la, du
manga. Oui, tout à fait. Alors, il s'appelle Spirale. Voilà, il est un petit peu long, donc c'est vraiment parfait à lire sous la couette. Et l'auteur s'appelle Junji Ito.
Lecture vertigineuse, donc. Merci, complètement. Cyril. Donc, on arrive bientôt à la fin. Donc, on pourra peut-être, on a commencé déjà à en parler, mais parler un peu de l'avenir. Vous venez d'ouvrir, du coup, mais il est question de vous étaler davantage sur le territoire. Donc, ce sera, vous avez dit, d'abord à Marvejols et Saint-Chély, c'est ça?
Oui.
À partir de quand, vous savez encore ou pas?
Alors, à partir de septembre 2023.
D'accord.
On essaiera voilà, de proposer, parce qu'on a parlé de la pause café des aidants à Mende, mais voilà, à partir de septembre, ce sera la pause café des aidants à Mende et également donc, à Saint-Chély, Marvejols. Ça peut être, voilà, c'est sur le secteur de Saint-Chély-Marvejols. Ce sera peut-être une pause café des aidants à Aumont pour que les aidants puissent venir plus facilement des deux villes autour. À partir de 2024, on ira aussi sur Florac. Et fin 2024, autour de Langogne.
Et avant cela, notre souhait et notre volonté, c'est aussi de proposer des ateliers. Alors, des ateliers d'information, prévention santé et bien-être. Parce qu'on sait souvent que, bah, évidemment, quand on est aidant, on est souvent stressé, tendu. Donc, beaucoup d'autres plateformes desquelles nous nous sommes rapprochés nous ont dit le bien-être, c'est quand même une thématique qui correspond bien voilà, à des besoins des aidants. Et ça va être de proposer, en faisant appel à des prestataires, eh bien d'informations sur la gestion de ses émotions, la sophrologie, la relaxation, ce qu'on peut mettre en place. Et puis, nous, de bâtir quelque chose autour de thématiques où on sait que l'alimentation, le sommeil, ça va être voilà, des sujets récurrents qui vont pouvoir, sur lesquels on va pouvoir donner de l'information, y compris pour les aidants, mais aussi pour les aider. Parce que c'est des sujets qui concernent voilà, les deux.
Et pour suivre un peu vos actualités, vous avez un site, vous êtes sur les réseaux sociaux peut-être?
Comment? Alors, on a un site, c'est Soutenir les aidants, parce qu'il y a une fédération nationale des plateformes d'accompagnement et de répit qui regroupe toutes les plateformes d'accompagnement de France. Donc voilà, on a un site, Soutenir les aidants, l'espace des aidants à Mende.
Okay.
Et on a une page Facebook, l'espace des aidants,
voilà, sur laquelle on mettra au fur et à mesure de ce qu'on va proposer, eh bien, nos activités. Et peut-être donner une information, on est en préparation, là, en partenariat avec des caisses de retraite et puis beaucoup d'autres professionnels, d'une manifestation dans le cadre de la Journée nationale des aidants.
Qui aura lieu quand ?
Le 6 octobre 2023 à l'espace Georges Frêche à Mende. Cette journée donc nationale, c'est l'occasion de faire parler des aidants, de leur proposer de l'information. Et nous, en fait, on va faire venir une compagnie théâtrale qui fait du théâtre forum. C'est du théâtre interactif, donc qui va mettre en scène des scénettes d'aidants. Et puis, du coup, faire interagir le public à partir de ce qu'elle joue pour dire est-ce que ça correspond à ce que vous vivez.
Eric. Oui, non, je reviens juste. Tout à l'heure, vous nous avez dit, pour le moment, vous accueillez une quinzaine de personnes, c'est ça ?
Oui.
Est-ce qu'il y a une limitation ou est-ce que...
Non, il n'y a pas du tout de limitation. On sait que voilà, là, la première partie de notre travail, c'est de faire savoir aux aidants que l'espace des aidants existe. Mais après, il n'y a pas du tout de limitation. On peut accueillir tous les aidants du département. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Après, on est...
Mais il y a certaines personnes qui vont nous appeler juste une fois pour une information précise qu'on va leur donner. Et d'autres, on sait qu'il y aura effectivement peut-être un accompagnement qui sera sur du plus long terme.
Parce que ça rejoint un peu la question d'Éric. Si ça a amené, j'imagine que vous allez rencontrer encore des nouvelles personnes, que vous n'avez pas encore eu relation avec tout le monde. Est-ce que vous, votre unité, elle va aussi être amenée à se développer? Parce que pour l'instant, vous n'êtes que trois. On peut aussi se dire que ce n'est peut-être pas beaucoup non plus.
Alors, trois, et puis on est trois à mi-temps, il faut le préciser aussi. C'est l'Agence régionale de santé qui finance le dispositif. Là, on vient d'être créé, donc on aura du mal à parler de l'avenir et du développement de ce côté-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être créées. Là, on commence la création, mais il y aura beaucoup, comme disait Sylvie, d'ateliers, de formations et de moments d'information. Et on a la chance aussi de pouvoir faire appel à des professionnels extérieurs. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir créer des liens suffisamment de confiance avec des partenaires et d'autres professionnels pour pouvoir proposer des activités. Quand on parle des activités bien-être, c'est des activités où nous, on sera présents de toute façon pour initier l'activité et créer des groupes d'aidants, mais où après, un professionnel peut prendre en charge, quand on dit une session de 5-6 séances sur le bien-être, le professionnel peut être là et proposer les 5-6 séances, si c'est une semaine sur deux.
Oui, après, une fois que le
projet est lancé, nous, on sera toujours là derrière pour assurer le suivi, vérifier que tout se passe bien et que les aidants puissent nous faire un retour de ce qui se passe bien ou moins bien. Mais en tout cas, les projets ne sont pas limités parce qu'on peut, faire appel à d'autres personnes.
Et peut-être vous pourriez nous préciser le rôle de chacune, puisque c'est pas pour rien non plus, j'imagine qu'il y a une infirmière, une psychologue et une coordinatrice. Donc là, toutes les deux, vous, Joséphine, vous êtes infirmière, vous, Sylvie, coordinatrice. Alors, quel est votre rôle à chacune précisément? Quand on se rend sur place, qu'est-ce que vous...
Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, comme on démarre, on a quand même... Alors, c'est très intéressant d'avoir une équipe pluridisciplinaire, puisque notre regard sur les situations, les difficultés, il va se compléter du regard de l'autre. Mais pour l'instant, donc, pour recevoir et informer les personnes, on est toutes les trois mobilisées sur cet accompagnement-là. Par contre, dès qu'il y est question, quand il y a des conflits, quand il y a un besoin psychologique, là, évidemment, ça va être orienté tout de suite vers notre collègue psychologue. Moi, en tant que coordinatrice, j'ai plus aussi la fonction d'assurer le suivi en termes de l'activité et de rendre compte auprès de nos financeurs. Ça va m'incomber en tant que coordinatrice. Et par rapport aussi un peu au partenariat, mais encore qu'on s'est réparti les partenariats, et pour l'instant, on est plutôt toutes les trois bien impliquées.
C'est aussi ça, qui est bien d'être une petite équipe aussi, peut-être, c'est d'avoir une vue globale de ce qui se passe, quoi.
Oui, ça permet de communiquer assez facilement. Et puis voilà, après, le fait d'être trois à mi-temps, il faut que tout le monde soit en capacité de faire un certain accompagnement avec, comme dit Sylvie, chacune nos missions un peu plus adaptées.
Est-ce qu'après, le but, c'est d'avoir des bénévoles qui puissent vous aider ou pas du tout?
C'est une bonne question. On n'est pas parti dans cette réflexion-là pour l'instant. Des bénévoles sur l'espace des aidants, on ne sait pas ce qui peut arriver. Après, par contre, on travaille aussi avec les associations qui existent déjà. Et là, dans ce domaine-là, il existe des associations avec des bénévoles qui sont déjà bien investis. Donc, je ne sais pas s'il y aura des bénévoles sur l'espace des aidants, mais en tout cas, des gens qui veulent s'investir, on peut au moins les orienter vers des associations qui existent et où où il y a toujours besoin de bénévoles et où il y a des choses qui existent en Lozère aussi de ce côté-là.
Oui, on pourrait imaginer. Alors, Joséphine fait référence à l'association France Alzheimer, hein, qui est composée. Enfin, ce sont des bénévoles qui accompagnent et qui vont écouter les personnes, les aidants qui s'adressent à eux. On travaille évidemment bien en lien avec eux. Nous, je ne sais pas si on peut imaginer que sur certaines activités où peut-être on pourrait avoir besoin de bénévoles, mais pour l'instant on ne sait pas parce qu'on a aussi le projet d'organiser des sorties conviviales aidants aider. Et voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, la question ne s'est pas posée. Par contre, d'être en lien avec d'autres associations qui, eux, soit la Croix-Rouge, le Secours catholique ou autres associations aussi, qui peuvent peut-être, je ne sais pas, assurer quelle mission, mais nous, ou qui pourraient aider certains aidants qu'on peut envoyer vers ces associations. Bon, tout ça est à imaginer. Pour l'instant, on n'a pas encore travaillé. On n'est pas allé dans ce sens-là.
Après, c'est vrai qu'on a déjà eu contact avec des bénévoles, pour le coup, d'autres associations qui sont parfois très investies et qui nous ont proposé, nous, si on a, voilà, sur des ateliers ou des moments d'information, qui sont prêts à venir dans le cadre, quelque part, de l'espace des aidants, en tant qu'intervenant, en disant que, voilà, ils sont ou anciens aidants ou qu'ils ont, ils ont de l'expérience et ils sont prêts à partager leur expérience. Donc, on sait qu'on peut aussi compter sur les bénévoles de ce côté-là.
En tout cas, l'appel est lancé à toute personne qui a envie de s'investir auprès de vous ou auprès d'autres associations. Sylvie Ponel, j'ai mélangé les deux. Sylvie Verdusier, Joséphine Ponel, merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui.
Merci.
Oui, le numéro, on va le dire tout à la fin, comme ça on retient bien le dernier chiffre qui se dise. Donc je rappelle, vous faites partie du nouvel espace consacré aux aidants, dédié aux aidants qui vient d'ouvrir à Mende. Donc c'est à côté de l'EHPAD Adoration à Mende. Mais ça fait partie de l'accueil de jour. Attention, ne pas mélanger les deux. Merci également à Eric et Cyril d'être encore venus aujourd'hui.
À bientôt, ouais. Merci tout le monde.
À très bientôt. Et donc, oui, pour vous contacter, donc, j'avais noté l'adresse mail. Alors, il faut que je retrouve, puisque j'ai trop de feuilles dans les mains.
PFR48@orange.fr.
Voilà. Et le numéro de téléphone
04 66 42 53 05 et le portable 06 47 16 03 59.
Et ben voilà, j'espère que vous avez tout bien noté et on vous dit à très bientôt sur 48 FM. Bonne journée.
N'hésitez pas à nous contacter.